Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors nous avons dans nos studios de la rue d'Assali ce soir Béatrice Balti. Béatrice, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venue nous rejoindre pour parler de ton dernier livre. Alors si tu le veux bien, comme il est de coutume dans cette émission, je vais commencer par faire quelques présentations de livres avant d'aborder donc le sujet de cette semaine qui sera Robert Louis Stevenson, Voyage au bout de l'étrange par Béatrice Balti. Premier livre, je voudrais revenir sur Bruno Doucet qui a publié il y a déjà quelque temps « S'il existe un pays ». Effectivement, on n'avait pas beaucoup parlé de ce livre. Alors je voudrais saluer d'abord le travail accompli par Bruno Doucet, qui est un éditeur de poésie et qui a à son actif un nombre absolument considérable de recueils depuis qu'il a fondé ses éditions. En particulier, Serge Peille, donc poète toulousain, bien connu, a fait paraître un livre « Venger les mots » dont nous avons parlé ici et dont nous reparlerons. Et lui-même, Bruno Doucet, est un poète. Alors souvent, il se trouve que les éditeurs poètes, leur travail d'édition finit par effacer leur travail de créateur. Et Bruno Doucet est un poète authentique. Je vais vous lire ici, il a publié donc chez lui, il a publié « S'il existe un pays », les éditions Doucet, bien sûr, et je voudrais vous lire un extrait de ce livre que je vous recommande. Alors, l'Amérique, je choisis l'Amérique, hein, puisque on parlera ensuite de l'Irlande, de l'Amérique,
de l'Écosse.
Ouais. Voilà. Amérique, il marche sur Broadway, s'électrise à Times Square, dévale sans encombre les escaliers de sa propre façade, mais se souviendra-t-il ? De Tijuana à Natascam, de gel en demi-jour, il marche, traverse routes et méridiens, déserts, sierras et plaines, remonte à toute allure le mascaré de son enfance, sa houppelande de granit chevillée au corps. Mais se souviendra-t-il ? Il marche, les contreforts de sa mémoire cèdent sous la cohue dans le gypse des larmes, les géoglyphes de Nazca. Si nu sous ses paupières, singes et colibris franchissent les ravins, lignes vouées au ciel, lèvres cousues. Mais se souviendra-t-il ? Se souviendra-t-il de la ligne de partage des hommes, du triple A, du triple K, latrine de l'humanité, des fonds de cale souillés de vies humaines, du cri arraché aux chevilles au temps de la plantation ? Se souviendra-t-il du 11 septembre 1973, en son damier de faucon noir, des corps lestés d'acier pour un voyage sous-marin, de la poussière de Calama, du cuivre que l'Indien arrache de sa peau? Se souviendra-t-il de la daube des mains et des enfants pueblos, des rapides de Rock River, où des poissons d'argent réinventaient le jour de l'homme pour qui la terre n'appartiennent pas à l'homme. Voilà. Donc on trouve aussi le ton militant de Bruno Doucet dans ce livre « S'il existe un pays », donc aux éditions Bruno Doucet, et ça vous coûtera 15 euros. Et puis, notre ami Michel Baglin, je dis notre parce que Béatrice Balti le connaît bien également, Michel Baglin. Alors Michel Baglin vient de faire paraître aux éditions Henri, ce sont des éditions qui généralement publient quand même plutôt de la poésie, un livre qui est très bien fait parce qu'il est merveilleusement, alors absolument merveilleusement illustré, de dessins humoristiques de Jean-Michel Delambre, donc aux éditions Henri, ça s'appelle « Lettre d'un athée à un ami croyant » avec des dessins donc qui sont des dessins vraiment très caustiques, ils frappent fort et en même temps totalement hilarants. Alors, voici ce que dit Michel Baglin pour présenter son livre. « À l'heure des attentats, ces lettres d'un athée porte la conviction que le dialogue entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas reste ouvert, à la condition de ne pas oublier qu'en démocratie, le respect est dû aux personnes, pas à leur foi, leurs idéologies, leur représentation du monde, leur utopie. Les religions ne saurait rester elle seule hors du champ de la critique, comme le rappelle Boualem Sainsal à propos de l'islam. Or, la demande des intégristes catholiques de créer un délit de blasphème, comme celle des musulmans qui protestent contre les caricatures, montre à quel point le ver est dans le fruit. Parce que le sacré des uns n'est pas celui des autres, et qu'il n'en est pas d'universel, le sacrilège n'existe que dans la tête des censeurs. Quand les religions entendent imposer leurs injonctions et leurs interdits, on entre dans l'apartheid, elle porte en elle la guerre des communautés. Ainsi, ce plaidoyer pour la laïcité souligne-t-il qu'il n'est pas de frères de race ou de religion, seulement des frères d'humanité, car la fraternité est universelle, sinon elle ne recouvre qu'une solidarité de clans, de tribus, une solidarité de meute. Et c'est signé Michel Baglin, donc ce livre, Lettre d'un athée à un ami croyant. Cela vous coûtera aux éditions Henri 10 euros. Alors ça fait bien suite à l'émission que nous avons faite il y a peu de temps avec Didier Turios, que tu connais
oui,
également,
oui. Hein,
qui a été comme toi lauréat du oui. prix des gourmets de lettres. Didier Turios qui, lui, poursuit cette fraternité en allant tout à fait chez les gens, en voyageant,
ouais.
Et qui nous avait raconté à ce micro une histoire terrible. Ça se passe à Raqqa. Il est reçu dans une famille où il y a des enfants merveilleux. Il est reçu avec une hospitalité extraordinaire. Ça dure toute la nuit. Il faut la fête toute la nuit, de whisky en whisky, etc. Et à la fin de la nuit... Son hôte lui montre ses enfants, qui sont des enfants merveilleux, et lui, en lui disant, dans quelques temps, eh bien, ils seront prêts pour partir de l'autre côté avec une belle ceinture.
Mmh.
Et donc, lui, évidemment, il a été très choqué par cela, dans cette mentalité qui est inconcevable pour nous, en tout cas. Et il disait, la fraternité doit rester une fraternité véritablement universelle. Et c'est celle que Didier Turios pratique sans aucun doute. Voilà, nous aurons l'occasion de reparler de ce livre avec Michel Baglin. Et puis, pour terminer, je voudrais signaler, nous l'avons mis en ligne sur notre site les-poètes.fr, notre rubrique parution, et peut-être même d'ailleurs en page d'accueil, le numéro 37-38 de la revue Contre-Allée, qui est une excellente revue de poésie contemporaine, qui publie dans ce numéro Serge Peille, donc notre poète toulousain, Christine Bonduel, Gérard Cartier, Jean-Gabriel Coscu-Luella, Emmanuel Damon, Bernard Moreau, Isabelle Pinson. Voilà. Très vite, un texte de Michel Baglin, de Serge Peille, excusez-moi, Serge Peille. Je voudrais choisir ce texte qui est dédié à François Maspero, l'éditeur, un extraordinaire éditeur qui nous a quittés il y a peu de temps. Pour François Maspero, c'est ce qu'on retiendra de cet homme dans son oraison funèbre, une fuite d'eau qui courait dans l'escalier vers la rue et les égouts de Paris. Cet homme était mort simplement dans sa baignoire, en laissant les robinets ouverts, qui n'avaient pas eu le temps de fermer avant de partir en voyage. Mais ce n'était pas vraiment l'eau de la baignoire dans laquelle il était mort, qui débordait. Cet homme avait lui-même, depuis toujours, les mains, le cœur et les yeux remplis d'eau. Durant des années, il avait couru vers des puits asséchés pour les remplir avec un peu d'eau qu'il portait dans sa bouche. Cet homme, en partant, avait voulu signaler simplement sa mort par une fuite d'eau. Cet homme était en réalité une averse. L'eau qui descendait par les escaliers et s'écoulait le long des murs avait averti les voisins, mais personne ne savait où était le robinet pour le fermer. Quand les plombiers sont arrivés, afin d'arrêter l'inondation, l'eau soudain, au lieu de descendre, s'est mise à monter pour crever la lumière. Cet homme était une averse à l'envers, ou une fuite d'eau qui montait vers d'autres fuites. Il n'avait pas de compteur général. Il n'y avait pas de compteur général pour François Maspero. Voilà, je m'arrêtais là. Donc, Contre-Allée, avec ces textes de Serge Peille, numéro 37-38, à commander. Vous trouverez les références sur notre site les-poètes.fr. Alors, Béatrice Baltis, nous allons donc te présenter. J'ai eu le grand plaisir de faire ta connaissance lors de la remise des lauréats des concours du gourmet de lettres.
Oui,
hein, qui sont dans, bon, il y avait le prix pour...
De littérature, pour le roman de l'année, voilà.
Le roman de l'année.
En 2013.
Alors, en 2013.
En 2013.
Voilà, voilà. Et ce roman, c'était
Robert Louis Stevenson, Voyage au bout de l'étrange.
Voilà. Donc nous allons en parler aujourd'hui de ce roman, mais auparavant, on va te présenter plus amplement. On peut dire que maintenant, tu es vraiment une écrivain quasiment professionnel.
Bon, je viens de terminer une histoire de l'Écosse et mon sixième livre terminé. Voilà.
Alors, dans les livres, tu vas nous parler de ces livres, quand même, les annoncer. Mais il y en a un, moi, que j'ai beaucoup aimé. C'est Zaïda, servante de l'Alhambra.
Oui.
J'espère qu'il est toujours... c'est publié à l'Armatan.
Oui, oui, il est toujours disponible. J'en vends toujours. Voilà.
Hein, c'est un roman historique qui se passe dans une région que j'affectionne.
Oui.
Qui est l'Andalousie.
Absolument.
Et voilà, la région de Grenade, avec l'Albécine. Et où tu racontes, donc, ça se passe en 1482,
voilà.
Et où les chrétiens, de plus en plus unis, récupèrent progressivement les morceaux du dernier bastion
du royaume de Grenade.
Du royaume de Grenade, hein,
voilà.
C'est Isabelle la catholique,
oui.
Qui est enterrée d'ailleurs à Grenade.
Voilà,
Grenade,
avec Ferdinand d'Aragon.
Qui est d'Aragon, sont tous
voilà.
Les deux là, qui arrive enfin à faire la reconquista
voilà,
terminée.
Absolument.
Ça y est, voilà.
C'est le dernier bastion. Donc, petit à petit, au début, il y a une bataille sur deux qui est gagnée par les chrétiens. Puis très vite, c'est les deux tiers, puis les trois quarts. Et puis voilà, jusqu'à ce fameux 1er janvier, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1492. Donc 10 ans après le début du livre. Voilà.
Alors moi, j'ai séjourné longtemps à l'Ancharon. Il y a un château, et ce château, quand il a été attaqué donc par les forces d'Isabelle la Catholique, les forces chrétiennes, le capitaine des gardes s'est jeté dans des tours pour ne pas avoir l'humiliation de la défaite.
Voilà.
Voilà. En tout cas, c'est un excellent livre, donc Zaïda. Servante de l'Alhambra, au temps de Boabdil, dernier roi de Grenade, aux éditions L'Armatan, roman historique. Alors, tu es né à
Nérac, dans le Lot-et-Garonne, voilà.
Bon, donc, Occitanie.
Exactement.
Tu as fait des études de langue, tu parles
absolument.
De trois langues de
voilà.
Façon
courante. Hein. Absolument, j'avais...
Oui.
En particulier l'anglais que je n'ai jamais arrêté parce que j'ai vécu 2 ans en Angleterre, en Angleterre, Écosse et Pays de Galles, et l'espagnol assez bien et l'allemand. J'étais traductrice dans une entreprise.
Oui, donc, tu as travaillé longtemps en Allemagne.
Voilà, je suis allée plusieurs fois en Allemagne et j'ai travaillé dans une boîte internationale, voilà, qui était le groupe Tal de Luznac, Rio Tinto, voilà.
Oui. C'est la Calriège.
Voilà, exactement. Pour le directeur export. Donc.
Et après
j'ai repris des cours d'histoire à la Sorbonne.
Donc une formation d'histoire.
Voilà.
Et puis tu t'es lancé vraiment un peu comme Stevenson. Hein. On va
voilà,
reparler.
J'ai commencé moins tôt que lui, parce que lui, il n'a jamais arrêté d'écrire.
Oui.
Mais voilà, donc... petit à petit, puis je crois que c'est quelque chose qu'on a en soi, on est littéraire ou pas, ou donc voilà.
Combien de livres ?
Ça, c'est mon cinquième livre, et mais il a déjà 3 ans. Et là, j'ai mon histoire de l'Écosse, qui est une commande, va paraître en mars qui vient, là, dans 2 mois. Et donc, c'est dans le cadre d'une collection sur les histoires des peuples. Donc, c'est des premiers habitants jusqu'au référendum sur l'indépendance, en passant par Marie Stuart, évidemment, etc. Quoi.
Donc, spécialiste de l'Écosse.
C'est mon troisième livre, en fait, comme je connais bien la région. Alors, voilà, du coup, les gens font appel à moi.
Alors, tu t'attaques à un des grands noms, hein,
Oui,
de
absolument.
la littérature écossaise, hein,
Absolument.
un des peut-être plus grands noms de la.
Voilà, il y a
Hein?
Walter Scott,
Oui, oui.
Robert Louis Stevenson est connu surtout pour deux livres, alors qu'il en a écrit une vingtaine, sans compter une centaine de nouvelles magnifiques. Mais il est connu en France surtout pour L'île au trésor et L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. Voilà.
C'est surtout celui-là, enfin, L'île au trésor, considéré comme un livre pour les enfants,
Oui, mais alors
hein?
qu'en fait,
Ah,
ça n'est
oui,
pas,
ça n'est
hein,
pas du
ça
tout.
n'est pas du
Oui,
tout.
ça n'est pas du
Voilà.
tout. Et puis,
L'étrange
L'étrange cas
cas
du docteur
Jekyll et de
Jekyll
Mr.
et
Hyde,
Mr.
c'est
Hyde.
un livre de 100 pages.
Oui.
Et on voit comment quelqu'un qui est très respectable ne va avoir. Il est tenaillé par un désir de faire sortir la partie mauvaise qu'il a en lui. Et c'est ce mélange de bien et de mal qui cohabite chez un homme dans la même personne. Et non pas. C'est une petite réaction à son éducation calviniste, un peu rigoriste, surtout de la part de sa nourrice, où on faisait partie soit des damnés, soit des sauvés, mais on n'était pas à la fois
Oui,
damné et
c'est ça.
sauvé. Lui, il aime bien les héros à double face. C'est souvent quelque chose qui va revenir un très beau roman qui n'est pas très connu ici, mais par certains, qui s'appelle Le Maître de Ballantré, qui est absolument fabuleux. Là, c'est deux frères. L'un a la beauté du diable, il est très charmeur, et l'autre est rigoureux et on peut lui faire confiance, mais en fait, il est très ennuyeux. Et en fait, le lecteur ne s'intéresse qu'à celui qui a la beauté du
Oui,
diable, en fait. C'est toujours comme ça.
alors, Stevenson, ce n'est pas. Il arrive à briser le manichéisme, hein,
Voilà, c'est
complètement.
ça.
Je crois que maintenant, on sait que la vie n'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est à la fois. C'est pas ou blanc ou noir.
Voilà.
C'est à la fois. Ce n'est pas gris non plus.
Non, non,
C'est
non.
pas, c'est encore plus,
Voilà.
c'est une erreur encore plus profonde, je crois,
Exactement,
hein, de penser.
exactement.
C'est blanc et
Et
noir.
voilà.
Blanc et noir. Il faut cette contradiction pour arriver effectivement à l'unité. Hein, qui se nourrit de ces contradictions.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et ça, c'est un auteur qui est un auteur, en ce sens, je le trouve, moi, révolutionnaire quand même, Stevenson. Hein,
Absolument.
il révolutionne
Il
la
est extrêmement
littérature.
moderne.
Voilà, tout à fait.
Tout en ayant une formation
Oui.
classique, c'est quelqu'un qui va faire des études d'abord à l'époque, même si on faisait des études scientifiques, ce qui va être son cas puisqu'il va être d'abord ingénieur. Il va suivre dans ce truc la tradition familiale puisque il y a plusieurs générations d'ingénieurs, constructeurs de phares, mais il y a aussi il va réussir à développer le côté littéraire et on voit qu'il y a une très grande culture derrière lui en fait.
Alors ce livre, Robert Louis Stevenson, Voyage au bout de l'étrange, c'est une biographie qui est conçue comme un roman. Hein?
Voilà,
C'est-à-dire
oui,
que ce n'est
il y a
pas.
quelques dialogues,
Oui,
hein,
y a des
il y a des
dialogues. Oui, il y a
dialogues.
des dialogues, c'est vivant, on le
Voilà,
suit, on a
voilà.
l'impression d'un. Comment dirais-je? D'une fiction biographique
Oui,
sur sa
c'est ça.
vie. Bon,
Et ça suit son œuvre
c'est.
aussi.
Voilà, ça suit son
Et ça
œuvre.
suit son œuvre,
Voilà,
l'écriture de
oui.
son œuvre.
C'est donc extrêmement vivant, c'est-à-dire ce
Oui,
n'est
oui.
pas
J'ai
un
essayé
livre
de. Non.
d'histoire,
Voilà, avec des dates,
biographie avec des dates,
voilà. Il
etc.
y en
Hein.
a aussi, mais
C'est un
ça
vrai
suit,
récit, oui, mais c'est inclus
voilà,
dans le
dans
récit,
le
hein,
récit,
dans le
voilà,
récit.
exactement.
Alors, c'est très intéressant quand même parce que c'est original, totalement original. Hein. D'abord, son éducation dont tu parlais, c'est une éducation aussi assez originale. Il devient ingénieur, c'est quand même pas rien de réussir quand même. Il a
Oui,
réussi ses études, hein.
il a
Dieu
réussi
sait
ses
s'il y va
études.
reculons,
Oui,
mais,
exactement, poussé
mais, il
par
est,
le
mais il oui,
papa.
possiblement,
Et,
voilà. Il
mais
obéit toujours, hein,
il
il
obéit.
obéit toujours.
Il y a cet amour pour ses
Oui,
parents. Il est fils unique aussi, donc il y a un peu de pression
oui.
aussi. Il faut dire que la famille Stevenson a construit 95% des phares d'Écosse.
Oui.
Et c'est pour arrêter les naufrages, pour que les. Parce qu'avant, il y avait des. Comme en Bretagne, il y avait des naufrageurs, des gens qui faisaient couler les bateaux exprès pour les voler. Et grâce au phare de la famille Stevenson, ça va s'arrêter. Et donc lui, il y va à reculons, effectivement. Mais il n'est pas encore prêt pour une rébellion qui va se passer un peu plus tard, en fait.
Oui. Et quand son père voit qu'il ne réussira pas comme ingénieur, que vraiment ce n'est pas dans sa fibre, qu'il a fait l'impossible malgré tout.
Alors qu'il a eu son diplôme, mais il voit que ce n'est pas sa vocation.
Pour ne pas perdre cette gloire quand même familiale, il fait des études au droit.
Voilà, et il devient avocat.
Il devient avocat.
Là aussi.
Là aussi, il réussit quand même.
Bon. Je pense qu'il était très intelligent.
C'est quand même, c'est quand même un tour de force. Oui. Bon, c'est d'éducation. Alors, il y a aussi, dans ce qu'on voit bien dans ce livre, c'est la peinture de la société de cette époque-là. Qui a vieilli quand même.
C'est daté, c'est quand même très daté. Mais même si les parents, je trouve que quand même, ils vont... Bon, parce qu'on va peut-être parler du départ, de sa fugue. Mais ils auront une attitude... quand même, au fond, c'est des gens gentils.
Oui, ils n'avaient pas trop le choix quand même.
Mais il y a des gens qui se fâchent définitivement avec leurs enfants.
Oui, absolument.
Même maintenant.
Oui, c'est vrai.
Et là, il va... Alors que...
Alors, voilà. Dans cette éducation, il y a aussi ce côté... Alors, Mr. Hyde.
Oui.
Et alors, c'est aussi une bonne critique de... une bonne chronique aussi de la vie de cette époque-là, où il y avait dans ces villes des quartiers
interlopes, avec il y avait les maisons closes comme en France, mais il y avait les fumeries d'opium qui étaient ça va pas être un grand fumeur d'opium comme l'anglais Thomas de Quincey ou Baudelaire chez nous, ou d'autres, parce que c'est la même période, c'est la même époque, donc c'était assez en vogue. Mais quand justement il va avoir des problèmes avec des disputes avec ses parents, et peur de perdre son ami aussi, que ça soit la première Fanny qui est son ami avec qui il a une relation épistolaire qui devient de plus en plus intime, et la deuxième Fanny, il a tendance un peu à se consoler dans des endroits comme ça. Mais il ne deviendra jamais un opiumman.
Ni un voyou.
Non, ni un voyou. Il y a une très très bonne éducation. Il lui reste toujours un côté très gentleman, gentleman écossais.
Jusqu'à la fin.
Il est féministe, d'ailleurs.
Féministe. Il est tout à fait révolutionnaire pour son époque. Alors, il va quitter ce milieu familial.
Voilà.
Et puis, il va être dévoré par la littérature. Il avait essayé de faire plaisir à sa famille. Cette passion, je pense, va quand même le submerger.
Exactement. Voilà, il écrira des nouvelles tout en faisant ses études.
Dieu merci.
Parce que
ces ingénieurs, il y en aurait eu. Stevenson, il n'y en a qu'un.
Exactement. Et le père va quand même accepter, il faut lui rendre hommage, le père Thomas Stevenson va accepter de lui donner de l'argent et de le faire vivre. Parce qu'au début, au début, on ne gagne pas de l'argent comme ça, même à l'époque.
Alors, si on poursuit cette biographie, donc il se lance dans cette vocation littéraire, soutenue effectivement par sa famille, ce qui lui permet de ne faire que ça.
Oui, voilà.
Et puis, il va commencer à voyager.
Voilà, exactement. Alors, ça va être d'abord un peu la France.
Oui.
Il va faire un voyage sur les canaux du Nord. Et après,
la Picardie, la Belgique.
Exactement.
Oui.
Et après, ça va être Barbizon et Grez-sur-Loing.
Alors, ce matin, j'étais avec monsieur de la Portalière,
oui.
qui est mainteneur de l'Académie.
Je le connais, monsieur de la Portalière.
Mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux, qui me dit, est-ce que vous savez pourquoi on appelle le chemin Stevenson, les chemins de randonnée,
Eh
bien, évidemment, parce que...
parce qu'il a fait cette marche, Voyage avec un âne dans les Cévennes.
Exactement.
Et il allait toujours à la recherche de lui-même.
Oui.
C'est devenu un chemin de randonnée de à peu près 200 km. Hein. Je crois que c'est 192 et qui est fait. Moi, j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait. Moi, j'ai fait une petite partie. Je n'ai pas fait la totalité. Par contre, je me suis arrêtée dans l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Donc, qui décrit dans le voyage avec un âne dans les Cévennes.
Oui. Je vais lui envoyer la réponse. Hein.
Oui. Oui, c'est amusant. Ah oui.
Alors, donc, après ses voyages dans France-Belgique, il va faire un voyage beaucoup plus important.
Voilà. Donc il va séjourner aussi à Menton à cause de ses 6 mois à Menton pour ses problèmes de pneumonie un peu récurrente, puisque c'est un petit garçon il a été un petit garçon assez fragile et même adolescent, il continue de temps en temps à avoir des crises. Et alors là, il y aura après, à un moment donné, il va y avoir une dispute, surtout après une histoire avec une lettre d'un cousin, une blague de potache, où il déclarait, c'est une déclaration d'athéisme, c'était signé la LJR, qui était Liberty, Justice and Reverence, Liberté, Justice et Respect, où il déclarait qu'il fallait rejeter tout ce que les parents ont appris, et en premier lieu, la religion. Donc son père, qui est un monsieur qui est rigoureux et qui donne de son argent pour des œuvres protestantes, tout à coup, c'est justement cette histoire de... On est du côté des damnés, quoi. Lui qui a tout fait pour que son fils soit dans la bonne voie, tout à coup, il s'est dit, mon fils est athée, c'est très dur pour lui. Et il va y avoir j'allais dire une engueulade, mais disons une dispute très importante entre le père et le fils, et ça va mal se terminer parce que dans sa tête il va broyer beaucoup de noir et il va décider de partir dans des conditions minables parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent de poche, parce qu'il faut dire que son père, craignant qu'il aille trop voir les filles dans des maisons closes, à partir de 17 ans il a réduit l'argent de poche.
Ce qui a été pire d'ailleurs. Parce qu'il est allé dans les plus mauvais établissements.
Dans les plus mauvais, où les filles étaient les moins chères,
où
il rencontrait des petits malfrats, etc. Et là, il va partir un peu quand j'ai revu Titanic l'autre fois. Je repensais à DiCaprio qui est en troisième classe en sous-sol dans le bateau, dans le paquebot. Ben Stevenson est parti comme ça.
Oui.
Et il a perdu d'ailleurs en 3 semaines de bateau.
Il s'est beaucoup là.
Il a perdu déjà qu'il était très mince. Il a perdu 7 kilos.
Oui. Oui.
Donc il est parti. Donc les parents, c'était la panique. Ce fils chéri qu'ils aimaient tant, mais qu'ils avaient aussi trop couvé, trop étouffé, sans le vouloir, par un amour trop. Ils sont complètement paniqués et il n'écrit qu'à certains de ses amis, Charles Baxter, etc., pour donner des nouvelles. Et c'est Charles Baxter qui doit se rendre chez son père. Donc le père se sent humilié, il n'a jamais des nouvelles directement.
C'est dur.
Voilà. C'est dur parce qu'ils n'ont qu'un enfant, quoi.
Oui.
Et voilà.
Alors c'est la découverte des États-Unis.
Voilà.
Et il y aura ensuite cette idylle avec Fanny.
Voilà, Fanny qu'il a connue donc à Grez-sur-Loing. Ouais. Et qui a entre-temps a dit, parce que c'était une femme de presque 12 ans de plus que lui, et qui était en instance de divorce, mais qui était toujours mariée quand il l'a connue. Et il avait eu une aventure avec elle.
Il s'est demandé si elle allait.
Voilà, donc pour les parents, c'est ça aussi qui avait beaucoup contrarié les parents, parce que c'était pour eux, c'était de l'adultère. Donc ça, c'est pour le calvinisme presbytérien de l'époque, être avec une femme mariée, c'était quelque chose de terrible. Et donc, entre-temps, elle s'appelle Fanny Osborne. Et entre-temps, elle a divorcé. Donc, elle est plus disponible. Et ils vont avoir une espèce de vie là, de nomades. Ils vont aller dans une mine, faire leur voyage de noces dans une mine d'argent désaffectée. Enfin, c'est typique de Stevenson. Et sa femme est une aventurière. Quelque part, cette femme le bluffe un peu parce que d'ailleurs, il l'avait connue à Grès-sur-Loing. Elle était la seule femme au milieu des peintres et des écrivains. Il y avait 15 hommes et une femme, c'était elle. Elle allumait ses allumettes elle fumait déjà beaucoup. Ses allumettes, elle les grattait contre sa robe pour les allumer. Donc, ça plaisait beaucoup à Stevenson, ce côté très libre.
C'est viril quand même.
Oui, oui, oui. Parce qu'après, elle sera plus, elle a plus de poigne que lui. Oui. Hein. Oui. Même si c'est un faux, ça n'est pas quelqu'un qu'on manipule comme ça. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui, il y a eu deux ou trois moments dans sa vie où vraiment il n'a pas cédé. Il n'a pas du tout cédé, que ce soit avec sa femme ou avec sa famille en fait.
Mais bon, on voit, c'est une femme de à la fois une femme de tête, mais une femme de caractère.
Hein. Femme de caractère, parce qu'elle a eu une jeunesse assez triste. Oui. Son mari l'a beaucoup trompée. C'était une famille un peu de pionniers américains, donc on se bat beaucoup. Voilà, c'est ça qui avait forgé son caractère.
Et ça va lui permettre quand même ce caractère de suivre Robert Louis Stevenson dans ses périples.
Exactement.
Ensuite, il fallait quand même être bien trempé.
Ne
serait-ce que les voyages à cette époque-là.
Les voyages.
Elle sera
relativement à l'aise. Sauf quand finalement il va revenir, quand tu es avec ses parents, les choses sont en train de s'arranger, le père leur offre une maison, etc. C'est là curieusement, comme Robert Louis, qu'on va appeler d'ailleurs Louis, ses amis l'appellent plus que Louis, lorsque Louis va être un peu repris par le côté littéraire écossais ou anglais avec son directeur littéraire et tout ça, elle va souffrir parce qu'elle n'aura pas l'emprise qu'elle a un peu sur lui. Et il a quelques amis qui... D'ailleurs, elle ne s'entendra jamais avec ses amis. Elle ne fera pas d'efforts. Elle estime qu'ils lui prennent trop son mari. Et elle va au départ vouloir être l'unique critique de l'île au trésor, et elle va dire non, que c'est trop tiède, alors que c'est devenu un grand succès. Et puis on pense que elle avait fait une ou deux remarques concernant l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. Il y avait eu des scènes un petit peu dans Mr. Hyde, c'était aussi, il y avait une question de, c'était la masturbation, c'était un sujet un peu tabou. Donc Mr. Hyde faisait tout ce que la morale interdisait en fait, et elle va lui faire enlever ce passage. Et en fait là, on pense que c'était un peu trop tôt pour parler de choses comme ça en 1880, quoi.
Alors, on n'a pas parlé des voyages de Stevenson. Il s'embarque avec Fanny, mais pas qu'avec Fanny.
Alors Fanny et son fils qui s'appelle Lloyd et son gendre et puis après à un moment donné il y a la mère aussi qui s'embarque. Alors il faut dire que ce voyage dans les mers du Sud, ils vont attendre que Thomas Stevenson soit mort. Parce que ce qui est assez amusant, c'est de voir la maman de Robert Louis Stevenson qui a la coiffe victorienne de veuve comme la reine Victoria, hein, et qui est là sur ce bateau, cette goélette là, qui fait 2 ans de voyage. C'est assez amusant. Et ils vont comme ça faire un peu comme Gauguin ou Jacques Brel.
Oui.
Encore plus loin parce que ça sera Tahiti, les marquises.
Ils dépassent les marquises.
Et Tuamotu.
Dans un coin qui est...
Et les Samoa, c'est la Polynésie un peu anglo-allemande. Mais c'est encore plus loin.
Oui.
C'est encore plus loin.
Samoa, donc ils s'arrêtent au Samoa. Il y a, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais il y a quelques lignes assez féroces, véritablement féroces, de Henry Adams.
Voilà. Hein? Alors oui, j'avais ça sur l'arrivée au Samoa.
Voilà. Oui. On va l'écouter.
Ça, voilà. Oui. Donc c'est l'arrivée, l'arrivée.
C'est un extrait du livre. Hein.
Au large de l'archipel des Samoa. Depuis un moment déjà, le capitaine Dennis Reid avait cessé de sourire. L'air concentré, il se cramponnait au gouvernail. Progressivement, autour d'eux, le mugissement des flots devenait assourdissant. Durant quelques minutes, les passagers de la goélette Équator eurent les yeux rivés vers l'île et ils se serrèrent les uns contre les autres, immobiles et silencieux. C'était à chaque fois pour eux le même émerveillement. Au loin, paisible et turquoise, s'étirait le lagon de cristal, tandis qu'à moins de 300 mètres, les lames se brisaient avec fracas et sans relâche sur la barrière de corail. Entre ces deux mondes aquatiques où le calme et la sérénité étaient confrontés soudain à l'énergie et à la violence des éléments, de ses yeux bleus perçants, Reid cherchait la passe la plus proche, la fracture du récif où le bateau pourrait s'engouffrer. Enfin, les passagers de l'Équator reconnurent cette sensation maintes fois éprouvée lors de leur voyage dans les mers du Sud. Dans un silence hors du temps, le bateau glissait maintenant sur l'eau peu profonde et transparente du lagon d'Opulu. C'était les dernières heures du jour et une brise tiède caressait le visage des passagers.
Comme si l'arrivée...
Voilà, l'arrivée, là où
il y a quelque chose de très romantique quand même, là
c'est,
aussi.
C'est très romantique et il y a quelque chose de... Ça va être là, même s'il fera trois ou quatre voyages en Australie, qui est l'endroit le plus proche, mais il ne pourra plus jamais rentrer dans son pays. Il faut savoir qu'il y avait entre 5 et 6 semaines de bateau pour rentrer. Et comme sa santé... même si dans un premier temps, elle semblait s'être améliorée, mais ça lui prend trop de... Il est trop fatigué pour entrevoir une visite à ses amis et il va avoir de cesse qu'à leur demander de venir, en fait, de venir le voir. Et donc, les 4 dernières années de sa vie, donc il va mourir à 44 ans, et de 40 à 44 ans, il est donc dans l'île de Samoa.
C'est moi. Oui, c'est très curieux. C'est vrai que Gauguin, là, et le Brel aussi.
Voilà, Gauguin, Brel, ils ont eu la fascination.
Malade,
et Brel a été aussi, il a demandé...
Il n'y a pas de vie bourgeoise aussi.
Non,
voilà, je pense
ce sont des rebelles.
Voilà, oui.
Et tous les deux seront enterrés, être enterrés à tout prix, là-bas. Oui, sur une colline, en fait. Oui. C'est quand j'ai vu l'émission sur Jacques Brel l'autre fois, je me suis dit, c'est marrant qu'ils aient demandé à être sur tous les deux. C'est des poètes, il y a une sensation aussi de liberté. Oui. Ce sont des hommes libres, vraiment.
Des hommes libres, voilà.
Voilà, j'ai cette impression-là.
Et qui peuvent envoyer, faire litière de toutes les convenances bourgeoises.
Oui, voilà, exactement. Voilà.
Tout en étant très fraternel,
au contraire,
même.
Très fraternel,
que
ça soit Stevenson, Brel, de Mille Vagues, c'est bourgeois aussi.
Oui.
Mais Stevenson était très à l'aise avec un capitaine de bateau, quelqu'un de très, très cultivé, de très chic. Il aimait tout le monde, en fait. Il y avait quelque chose de très universel.
Et avec les habitants de l'île, pareil.
Très à l'aise avec un chef coutumier polynésien avec qui il faisait un échange de kava, qui était une boisson avec une
euphorisante.
Et voilà, donc il était très à l'aise en fait. Un homme foncièrement gentil.
Oui. Alors par contre, je reviens à ce que je disais là sur Henry Adams, c'est quelqu'un qui vient le voir et qui arrive avec ce regard de la bonne bourgeoisie
américaine
et qui effectivement se dit mais qu'est-ce que c'est comment cet homme qui est dans ce débraillé, dans ce décor dans cette maison qui est,
c'est vrai.
Qui est si mal tenue, mais qui est intéressant.
Voilà, ils sont un petit peu, ils tombent de très haut parce que ils font ce long voyage Il s'arrête aussi à Tahiti, des États-Unis, San Francisco, il s'arrête à Tahiti.
Stevenson était un personnage.
Il avait énormément gagné d'argent, notamment aux États-Unis, pour Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oui. Donc ils font ce long voyage, et ça se passe au moment où Stevenson a quitté sa petite maison du départ, et où il y est peut-être encore un petit peu, mais la maison qui sera sa maison, qui sera quand même une belle maison dite coloniale des Caraïbes, n'est pas terminée. Donc il voit un espèce de type débraillé avec un pantalon rayé à moitié, avec une jambe qui n'est pas de la même couleur que l'autre. Et ils vont être vraiment très très étonnés et un peu choqué de voir cet écrivain célèbre et avec sa femme qui n'est pas mieux attifée que lui,
il y a une désapprobation quand même.
Oui, ils se disent que mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est grandeur et décadence. Pour sans savoir qu'en fait après, Stevenson va avoir un côté très colonel de l'armée des Indes, c'est-à-dire que chaque fois qu'il reçoit, il met sa ceinture, sa chemise blanche, il fait venir des musiciens, les serviteurs sont habillés en kilt. Il se voit en chef de clan.
Il prend l'Écossais le plus le plus huppé.
Exactement. Donc c'est
très étonnant. Il y a tellement de contradictions.
C'est un côté assez sympathique.
Très sympathique. Voilà. Oui, très sympathique. Oui. En tout cas, cette biographie est quand même passionnante. Je me disais, est-ce que Brel connaissait ça?
Alors, je ne sais pas du tout.
Il y a des ressemblances qui sont troublantes.
On a dû le lui dire. Alors, Brel est parti malade aussi. Alors, il savait qu'il avait un cancer quand il est parti. Stevenson n'était pas mieux, mais il ne va pas mourir de ça. Oui. Alors, on a longtemps cru que c'était une tuberculose. Maintenant, on pense que c'était plutôt une maladie héréditaire. Qui s'appellerait bronchiectasie, qui est une inflammation chronique des bronches qui finit par faire des rétrécissements et ça peut se terminer par un AVC, ce qu'il a fait. Il a fait une attaque à 44 ans, donc là-bas, quoi. Oui. Donc,
alors, on a vu le côté de la simplicité, quand même.
Oui.
Qui est en contradiction aussi avec son œuvre, qui n'est pas une œuvre.
C'est une œuvre très très bien écrite. On voit que c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps. Il connaissait Balzac, il connaissait.
Une expérience extraordinaire l'expérience de la vie.
Exactement.
Les études qu'il a faites, quand même.
Très pointues.
Très pointues, l'ont aidé.
Voilà, absolument. Hein.
Mais lui reste quelqu'un. Aimant quand même la simplicité, bien que tu as dit du cérémonial, mais
exactement.
Ça, c'est, je crois que c'est, il y a, on a besoin aussi dans certaines circonstances de la vie de rituels, il y avait un rituel quand les gens venaient. Quoi.
Exactement, et je crois que son Écosse aussi, c'est un point aussi qui est intéressant, c'est que cette Écosse qu'il a voulu fuir à un moment donné, il va avoir de cesse quand il va se sentir, surtout les deux dernières années, quand il va voir qu'il ne pourra plus jamais revenir. Il va avoir de cesse en choisissant ses sujets, 8 fois sur 10, ses sujets, il revient vers l'Écosse. Et il y a quelque chose, et puis avec son père aussi à la fin, il s'était beaucoup rapproché de son père. Il va en retirer quand même des choses positives de cette éducation, c'est-à-dire le goût du travail, ça va être comme son père, même si c'est un écrivain, mais c'est un énorme travailleur. Oui. Il a un bras suspendu par une écharpe avec des poids, il va continuer à écrire.
Oui, la crampe de l'écrivain.
La crampe de l'écrivain, il va dicter à sa belle-fille.
Oui, sa belle-fille,
il a ses problèmes pulmonaires, il a la crampe de l'écrivain et il va faire des bijoux. Les aventures de David Balfour, c'est la suite d'un bouquin qui est fantastique qui s'appelle Kidnapped ou Enlevé. Le début, c'est on dirait Dracula qui arrive dans le château de. On voit qu'il a une technique pour écrire, c'est pour créer les atmosphères comme le. comme l'auberge de l'amiral Benbow dans l'île au trésor, avec un pirate. On sent que ça, il y a une jambe de bois et puis qu'il y a, il y a quelque chose en quelques lignes. Je trouve que les Anglais sont, Anglais et Écossais sont très bons pour ça, pour créer des atmosphères, comme une Agatha Christie, oui. Comme Oscar Wilde, oui, comme oui, voilà, tous ces gens, puis le côté gothique,
Et créer cette atmosphère dans un lieu qui vraiment qui était aux antipodes.
Complètement aux antipodes. Et il va très bien écrire sur la Polynésie. Mais il va écrire une très très belle nouvelle qui s'appelle Ceux de Falaisa, qui est absolument magnifique. Il va d'ailleurs, les femmes qui sont peu présentes dans ces nouvelles et romans du départ, elles vont commencer à tenir presque le rôle principal à la fin. Et dans Ceux de Falaisa, il y a la sensibilité et la sensualité des Polynésiennes, qui est vraiment très bien décrite, et ce tabou un peu victorien puritain, là il va s'en dégager complètement, et il va pas comprendre d'ailleurs quand on va lui faire enlever certains passages, parce que son directeur littéraire est toujours à Londres, il va pas du tout comprendre, parce que pour lui il est plus là où il était. Il est en Polynésie avec des femmes lascives. Voilà, donc.
Oui, il y a un contraste terrible.
Oui, c'est ça. Oui. Mais. Oui.
Et en même temps, il s'amuse d'un de ses serviteurs qui croit fantôme.
Oui, voilà.
Ça amuse beaucoup.
Il croit. Voilà, c'est quelque part. Mais pour lui qui croit aux fées. Stevenson, comme tous les Écossais, il y a même des pasteurs en Écosse à l'époque. Il y a un pasteur qui a écrit plein d'histoires de fées et qui croyait vraiment aux fées. Donc c'est assez, assez curieux. Donc en fait, j'ai découvert en faisant les recherches donc, sur Stevenson, que le mot esprit, un peu les esprits, les mauvais esprits ou les bons esprits des Polynésiens se disait tapu. Et tapu, ça a donné le mot tabou. Et tout est peuplé, c'est les restes d'un animisme, hein, tout est peuplé d'esprits, les arbres, les sources, les voilà. Donc ça ne gênait pas du tout Stevenson, qui y croyait encore un peu. Hein. Pour Dr. Jekyll et Mr. Hyde, l'écriture s'est faite, il allait pas bien du tout, il avait des doses de laudanum, qui était un mélange d'alcool et d'opium, hein, avec un peu d'alcool et un peu d'opium. Et il disait que c'était les brownies, qui étaient les petits lutins, qui sont des lutins bruns, dans une espèce de brume un peu brune aussi. Et ces lutins triaient ses idées et l'aidaient à faire avancer cette histoire. Et qui rendaient encore grâce à ces brownies de l'avoir aidé, d'avoir... Donc, la magie, et c'est ce qui donne, je trouve, ce charme, cette modestie devant les événements, en fait. Puisque je pense que c'est pour ça qu'il parle, des choses restent mystérieuses.
Oui, comme si elles étaient dictées.
Voilà. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, voilà,
obscures,
et c'est des forces obscures, sans être tout le temps maléfiques, les brownies sont plutôt sympathiques.
Oui. Je vais te demander si tu veux bien de nous lire un deuxième extrait de ce livre.
Alors, je lis le départ de San Francisco, ce que lisait la nourrice, ce qui était les histoires des martyrs protestants pour chasser.
Ah oui, peut-être.
Voilà.
Oui.
Donc, voilà. Donc ça, nous revenons à son enfance à Édimbourg. Oui. Et sa nourrice faisait partie d'un mouvement puritain protestant qui n'était pas du tout le même que celui des parents de Robert Louis Stevenson. Donc elle aimait beaucoup raconter des histoires de pasteurs pourchassés, etc. Ce qui s'était vraiment passé en Écosse à l'époque où les Anglais voulaient imposer leur religion anglicane et voulait donc gommer la religion presbytérienne qui était du calvinisme pur. Alors voilà, donc je lis l'extrait. Louis s'installa confortablement dans son lit. La voix de Camille, donc la nourrice, au fur et à mesure de ses mots, devenait plus grave et plus belle. La vision, commença-t-elle. Durant la nuit, je fis un rêve. Je me retrouvai soudain transporté sur la lande couverte de brume, là où reposent les martyrs dans un lieu sacré. Dans cet endroit même où, au milieu de vertes bruyères, on peut toujours admirer la Bible et l'épée de Cameron gravée sur un rocher. C'était un rêve qui se déroulait à l'époque de ces âges sombres et ensanglantés, lorsque nos pasteurs n'avaient comme seul lieu pour prier que la montagne et les forêts. Quand, dans la sombre vallée de Wellwood, l'étendard de Sion était piétiné, couvert de sang et déchiré. C'était le matin, et le soleil venait d'apparaître à l'est, telle une réponse d'amour à la verdoyante poitrine des collines que la nature offrait. Haut dans le ciel, près des nuages blancs, on arrivait à distinguer le chant mélodieux de l'alouette, et venant des étendues sauvages et lointaines de Glenmuir, on entendait résonner les profonds bêlements des moutons et les sifflements des pluviers. Un peu plus tard, continuait Camille, Cameron et ses compagnons se retrouvaient encerclés par les troupes du comte de Challes, donc un Anglais. Résignés, le pasteur et ses hommes comprirent alors qu'ils allaient devoir leur livrer leur ultime combat. Tandis qu'elle s'apprêtait à réciter les derniers vers du poème, la voix de Camille avait soudain pris un ton plus grave et des accents tragiques. Les mousquets étincelaient et la lame des épées brillait d'un éclat bleuté, les casques se fendaient et le sang ruisselait. En un instant, le ciel s'assombrit et le tonnerre se mit à gronder lorsque la lande de Wellwood, les justes commencèrent à tomber. Bien longtemps après, quand le combat fut terminé, un chariot flamboyant traversa les cieux plombés, conduit par des anges, sur des chevaux immaculés, avec des roues de feu tournant sur des axes de clarté. Sur la voûte d'un arc-en-ciel, le chariot glissait, sur la voie du tonnerre chevauchaient les cavaliers. Volez, esprit pur, la récompense est là, tout près, un royaume de gloire, une couronne précieuse à jamais. Adossé sur son oreiller, les yeux brillants, Louis avait bu intensément chacune des paroles de sa nourrice. Pendant quelques instants, il resta silencieux et pensif. Il demanda soudain, « Camille, pour remercier Cameron et ses hommes d'être morts pour lui, est-ce que tu crois que Dieu leur gardera une place plus belle au paradis ?»« Le Seigneur leur donnera la meilleure de toutes, » répondit Allison, ou Camille avec conviction, celle qui se trouve à sa droite.
Alors donc une biographie dans un style agréable, bon voilà, vraiment c'est, tu es écrivain là, pas de doute, hein. Mais je suppose que ça a dû quand même te demander beaucoup de travail.
C'était beaucoup de travail. Ouais.
Documentation
exactement.
D'abord.
Alors j'ai eu la chance...
Et puis mettre tout ça de manière... faire organiser.
Organiser, et puis l'organiser comment? Parce ouais. Qu'il y a une personne en France qui s'appelle Michel Lebris, qui
ah
est
oui.
un Breton.
Tu as travaillé avec. Oui.
Alors,
oui,
disons que j'étais invitée oui. par oui. Michel Lebris. Mais Michel Lebris a commencé bien avant moi à écrire sur
oui.
Stevenson.
Oui, c'est vrai.
Donc moi, j'ai fait exprès de ne pas... J'ai lu plusieurs bouquins de lui, mais j'ai fait exprès de ne pas prendre sa biographie pour ne pas être influencée.
Oui.
Et pour ne pas faire de plagiat.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et donc j'ai fait... je suis partie de biographie écossaise oui. et j'ai été aidée par mon libraire à Édimbourg qui me faisait un tri. Ça, c'était formidable oui. en me disant ça vaut le coup, ça, c'est moins bien. Donc... J'ai travaillé avec une dizaine de livres et puis après j'ai relu pratiquement 80% de l'œuvre de Stevenson. Quoi.
Oui.
J'ai relu Dr.
Oui.
Jekyll et Mr. Hyde
oui.
et Le Trésor.
Oui.
Toutes les nouvelles, dont certaines sont des purs bijoux. Voilà, donc... et c'était... Alors il fallait faire des recoupements, y avoir la sensibilité de ce garçon qui va devoir lutter contre... une voie qui lui est tracée par ses parents, etc. Quand l'histoire de l'athéisme, le pseudo-athéisme, parce qu'il n'est jamais totalement athée, c'est très spirituel. Voilà.
Oui,
et quand même, il a une certaine spiritualité.
Oui.
Hein.
Oui.
Voilà.
Oui,
et le matin, d'ailleurs, quand il est en Polynésie, il va y avoir quelques psaumes qui sont dits le matin avec ses domestiques. Et donc, voilà, ça va être... je sais pas, j'ai un petit peu...
Bon, alors on va conclure que vraiment, il faut lire cette biographie, d'abord parce que c'est un roman qu'on lit. C'est pas,
voilà, c'est, ça, j'ai essayé ça,
alors,
de
elle
le
n'a rien d'ennuyeux, une malheur, rien,
non,
ce qui s'appelle
ouais,
rien.
Hein, voilà.
Rien d'ennuyeux, c'est un roman.
C'est une
je
vie
trouve que vraiment,
j'ai
avoir pu
de...
reconstituer cette vie, c'est quand même vraiment... difficile et très très réussi.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Mais en tout cas, il n'y a rien d'ennuyeux. On lit ça, on veut même savoir ce qui va se passer, etc. Il y a vraiment beaucoup
oui,
de...
Oui, parce qu'il y a toutes les émotions humaines.
On n'a pas parlé non plus de la famille aussi qui interfère complètement
cette
vie-là.
Hein. Et il va devoir se
battre. Et de la société, en définitive, qu'il y a derrière aussi.
Est-ce que je peux lire juste la conclusion
Oui, deux minutes. On va finir par ça.
Voilà. Donc je lis donc juste la conclusion, ce qu'a dit de son cousin qui a écrit une biographie de Stevenson, ce qu'il a dit de lui en 1901. Il était intarissable, il était brillant, il était romantique, il était fougueux, il était tendre, il était courageux, il était gentil, écrira de lui son cousin Graham Balfour dans sa biographie éditée en 1901. Malgré sa santé si fragile, Robert Louis Stevenson ne s'arrêta jamais d'écrire et il laissa derrière lui une œuvre immensément riche et variée. Son ami, l'écrivain Henry James, avait dit un jour de lui qu'il était profondément écossais, mais qu'il était avant tout un écossais du monde. Jusqu'au dernier moment de sa courte vie, Stevenson n'oubliera jamais ses racines. Il fut aussi un voyageur infatigable, toujours désireux d'aller à la rencontre d'autres gens et de nouveaux lieux. Dans ses rapports avec autrui, il se comporta en visionnaire moderne, en humaniste qui s'intéressait à tous, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Pour rechercher l'inspiration, Stevenson apprit progressivement à observer et à se fondre avec modestie dans la nature qui l'environnait, et mieux que quiconque, il parvint à rendre les atmosphères de ses livres tour à tour prenantes, étranges ou inquiétantes. Les mystères de l'âme humaine ne cessèrent jamais de le fasciner et tout au long de son œuvre, il réussit à en retranscrire la laideur ou la beauté, simple spectateur qu'il était d'un monde complexe dont il ne prétendit jamais avoir les clés.
Merci beaucoup, Béatrice.
C'était un plaisir, merci.
Donc, Robert Louis Stevenson, Voyage au bout de l'étrange par Béatrice Banti.
C'est aux éditions Yoran M. Banner, voilà.
Vous trouverez tous les renseignements sur notre site les-poètes.fr.
Exactement, voilà.
Et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons la semaine prochaine à Dijast. Avec des pas d'oiseaux.